Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Église au 3e, 4e et même un peu 5e siècle. On va s'intéresser à un sujet qui a été un sujet polémique chez les historiens. C'est en gros la conversion de l'Empire, la conversion de l'Empire romain. Les historiens se sont affrontés ces dernières années sur l'authenticité et les modalités de cette conversion. Donc aujourd'hui, je vous propose de mettre un peu les choses au clair pour savoir de quoi il retourne. Alors, quelques repères chronologiques, puisqu'on n'a pas forcément en tête l'essentiel de ce qui a pu se passer au 3e, 4e et 5e siècle. Alors, je donne 5-6 dates. En 212, on a accordé la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. C'est ce qu'on appelle la Constitution antoninienne ou Édit Caracalla. En 313, on a reconnu à l'Église la liberté de culte. En 325 a eu lieu le concile de Nicée. En 381, celui de Constantinople. En 392, il y a eu l'union de l'Église et de l'État. Donc voilà. En 410, Rome a été prise par les Visigoths. En 431 a eu lieu le concile d'Éphèse. En 451, celui de Chalcédoine. En 455, Rome a été prise par les Vandales cette fois-ci. Et en 476, l'Empire romain d'Occident s'est dissous, submergé par différents peuples barbares. Et donc, on a une période riche et mouvementée au point de vue politique et religieux, et on assiste à deux phénomènes. La conversion de l'Empire, on passe d'une église tolérée à une église d'État, alors que le point de départ, c'était une église persécutée. Et puis, on a la dislocation de l'Empire romain, par ailleurs. Et donc, la deuxième question, on peut poser deux questions, finalement. Pourquoi et comment l'Empire s'est converti au christianisme? S'est-il vraiment converti, d'ailleurs? Et ensuite, est-ce qu'il y a une responsabilité quelconque du christianisme dans l'effondrement politique de l'Empire romain? Voilà, vous avez peut-être lu les grandes inquiétudes de saint Augustin sur ce sujet. Alors, le plan que je vous propose d'adopter, c'est un plan en deux parties, et chronologique. On va d'abord se pencher sur le passage d'une église persécutée à une église tolérée, et ensuite, en deuxième partie, d'une église tolérée à une église d'État. Donc, en gros, première partie, 3e siècle. Et seconde partie, 4e siècle. Alors, première partie, de l'Église persécutée à l'Église tolérée, le basculement religieux du 3e siècle. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre d'abord ce qui se passe au niveau religieux dans l'Empire romain au 3e siècle, en général. Et ensuite, on s'intéressera à ce que certains historiens appellent la révolution mentale du 3e siècle, parce que s'il y a une conversion de l'Empire, c'est parce que, et si elle est authentique, essayons de voir si elle est tangible et il y a des éléments pour la saisir en fait. Alors nous sommes au 3e siècle. Pour reprendre un petit bornage chronologique, on est d'abord sous la dynastie des Sévères, entre 193 et 235. Puis il y a une période tellement mouvementée qu'on l'a appelée l'anarchie militaire, entre 235 et 284, donc tout le cœur de la période, c'est très compliqué politiquement et militairement. Et enfin, à partir de 284, on est dans une période de renforcement de l'État, avec un nouveau système de gouvernement mis en place par l'empereur Dioclétien, qui s'appelle la tétrarchie. Et si on prend la chronologie maintenant du point de vue de l'Église, on assiste à des persécutions jusqu'en 260, puis ce qu'on a appelé la petite paix de l'Église jusqu'en 303, puis une reprise des persécutions jusqu'en 313. Donc voilà le double cycle interdépendant d'ailleurs dans lequel on va réfléchir. Alors d'abord constatons que depuis la dernière fois, si je puis dire, l'évangélisation n'a cessé de progresser et le christianisme devient même majoritaire dans certaines régions. Il s'est répandu en Orient, en Palestine et en Mésopotamie, en particulier dans les villes. Il s'est même répandu dans l'Empire perse. Il y a des communautés chrétiennes et une vingtaine d'évêchés sur les bords du Tigre. Il y a même des communauté chrétienne sur le plateau iranien. L'Arménie s'est convertie au début du IVe siècle avec un modèle de chrétienté assez étonnant, avec son clergé, ses églises et ses évêques déjà. Le christianisme est très présent en Asie mineure, en Égypte, et en Europe, il progresse en Macédoine, en Grèce, s'étend jusqu'au Danube. Il progresse aussi en Afrique, où les chrétiens constituent une communauté numériquement très importante et assez tôt. C'est vraiment la communauté chrétienne la plus importante de l'Empire romain, en fait, en Afrique du Nord. À Rome, on estime qu'il y a 50 000 chrétiens sur 1 million d'habitants au milieu du IIIe siècle. C'est donc une minorité notable. Et en Gaule, le christianisme s'est introduit également par la vallée du Rhône et de la Saône et a commencé à prospérer dans certaines grandes villes comme Toulouse, Rouen, Reims ou Trèves et Cologne. Il y a entre 30 et 40 évêchés sur notre période. Et il s'étend même jusqu'en Grande-Bretagne et en Espagne où on va compter une cinquantaine d'évêchés. Cela dit, l'Occident romain est moins bien christianisé que l'Orient. Et évidemment, la rive sud de la Méditerranée est plus évangélisée que la rive nord. Alors, ce siècle, ce troisième siècle, est un siècle de fer et de feu par rapport aux deux qui l'ont précédé. Pourquoi? Parce qu'il y a des envahisseurs qui entrent régulièrement dans l'Empire romain, qui perforent le limes, hein, sur le Rhin et le Danube, des Goths, des Francs. Et il faut donc s'efforcer désormais de protéger l'Empire de ses agresseurs, mais aussi éventuellement de ses ennemis intérieurs, parce que certains voient chez les chrétiens, ou veulent lire chez les chrétiens, une sorte de double jeu. Et de fait, si on lit Tertullien, on peut être perplexe. Je vous cite Tertullien. Donc il est chrétien, bien sûr. Il n'y a pas d'accord possible entre le serment divin et le serment humain, entre l'étendard du Christ et l'étendard du diable, entre le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Une âme ne peut se vouer à deux maîtres, à Dieu et à César. Et si on lit Hippolyte de Rome dans la tradition apostolique, on trouve ceci. Le soldat subalterne ne tuera personne. S'il en reçoit l'ordre, il ne l'exécutera pas et il ne prêtera pas serment. S'il refuse, il sera renvoyé. Renvoyé de l'Église, donc, hein, excommunié. Celui qui a le pouvoir du glaive ou le magistrat d'une cité qui porte la pourpre cessera ou il sera renvoyé. Le catéchumène ou le fidèle qui veulent se faire soldat seront renvoyés parce qu'ils ont méprisé Dieu. Donc on comprend que dans un contexte de très forte inquiétude pour l'Empire, certains perçoivent les chrétiens comme des ennemis de l'intérieur. Et certains pensent plus généralement que ces chrétiens brisent, rompent la paix des dieux parce que cette secte impie que sont les chrétiens ne les honore pas. Et donc si on n'honore pas les dieux dans l'Empire, eh bien ils enlèvent la paix qu'ils accordent à l'Empire et l'ordre public est complètement menacé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réduire à néant. Et c'est donc ce qui va se passer en plein milieu du IIIe siècle. Sous différents empereurs, vont se déchaîner un certain nombre de persécutions des chrétiens. Alors, je vous les cite rapidement. Entre 235 et 238, il y en a une sous Maximin le Thrace. Alors, en plus, comme c'est l'anarchie militaire, des empereurs un peu partout, et plusieurs en même temps parfois. En 249, l'édit de l'empereur Dèce oblige tous les habitants de l'Empire à sacrifier aux dieux. Et donc, l'idée, c'est bien de refaire l'unité autour des dieux ancestraux. Mais en même temps, Dèce ne veut pas faire tant des martyrs que des apostats. D'ailleurs, on a retrouvé énormément de certificats d'apostasie. Et puis, on s'attache aussi à décapiter les communautés, donc on s'en prend aux évêques et certains en réchappent en basculant dans la clandestinité. Les persécutions sont très violentes en Espagne, en Gaule et en Afrique. Et beaucoup de chrétiens, en fait, renient le Christ pour garder la vie sauve. Ce sont les fameux lapsi, ceux qui sont tombés. En 251-53, sous Trébonien Galle, la persécution continue. Elle continue également sous Valérien en 257-58. Donc là, on va interdire les célébrations liturgiques. Le clergé doit sacrifier aux dieux sous peine d'exil. Et les récalcitrants sont condamnés à mort. Les femmes de l'aristocratie et les fonctionnaires impériaux sont exilés, leurs biens confisqués. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette persécution, on voit aussi que ça, le christianisme, en fait, s'est enraciné dans toutes les catégories sociales. Voilà. Et puis, donc, c'est dans cette persécution qu'il y a des martyrs célèbres. Sixte II, évêque de Rome, et puis le diacre Laurent meurt des suites des tortures subies. C'est lui qui avait dit à propos des pauvres « Voici les vrais trésors de l'Église, ils convertissent nos aumônes en trésors impérissables. » Il dit ça à ceux qui voulaient qu'on leur livre justement les trésors de l'Église. C'est dans cette persécution aussi que saint Cyprien de Carthage est décapité. Et puis en 260, l'empereur Galien met fin aux mesures de persécution parce qu'il réalise bien qu'il a besoin des chrétiens pour essayer de stabiliser l'empire. Et donc, il va les laisser récupérer leurs biens, construire des églises, et il leur reconnaît la propriété de leur cimetière. Alors, si on fait un petit retour en arrière, entre 217 et 222, à propos des cimetières, le pape Calixte avait été à l'origine de l'organisation publique des cimetières, et c'est là qu'on a pu avoir des lieux où on a enterré beaucoup de chrétiens, les fameuses catacombes, hein, puisque les sépultures étaient près d'une combe, hein, c'est ça que ça veut dire, sur la Via Appia, cimetière signifiant dortoir dans l'attente de la résurrection. Et d'ailleurs, on remarque au passage que l'incinération recule au profit de l'inhumation, ce qui manifeste une prise en considération du corps dont on croit qu'il va ressusciter. Oui, voilà. Les demeures, d'ailleurs, on n'autorise pas encore la construction d'églises, mais les demeures sont transformées en lieux de culte, et c'est à partir d'elles, à Rome, que vont se constituer les premières paroisses. On voit même apparaître un art chrétien sur les sarcophages, dans les lieux de culte, et puis il y a un baptistère à Dura Europos sur l'Euphrate, il y a des fresques magnifiques, et puis dans les catacombes romaines. Et les plus anciennes mosaïques chrétiennes sont celles de la famille des Iulii sous la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors on emprunte des thèmes à l'art païen, mais on leur donne une signification chrétienne. Les persécutions vont aussi entraîner une évolution des pratiques pénitentielles. On va prendre en compte les gens qui ont apostasié, et les pratiques pénitentielles vont être un petit peu moins sévères. Et c'est le pape Calixte aussi qui a été en partie à l'origine de cela. On remarque aussi, toujours sur le même Calixte, qu'on autorise les mariages entre femmes de rang sénatorial et des hommes de condition inférieure, et même des esclaves, ce qui permet de remarquer au passage que c'est bien le consentement qui fait le mariage, et que l'Église, en la matière, se heurte vraiment à la mentalité et aux pratiques romaines. Et puis, dans l'Église, à l'occasion des persécutions, on voit se distinguer, ici et là, des camps assez opposés entre les rigoristes et puis des gens qu'ils appellent des laxistes, qui considèrent qu'il faut être miséricordieux avec ceux qui sont tombés. Tandis que les rigoristes, ils ont renié le Christ, c'est terminé. On voit aussi beaucoup d'éléments d'ecclésiologie se préciser, notamment sous la plume de saint Cyprien de Carthage, qui développe l'idée de la primauté de Pierre, et qui précise également que lorsque les évêques sont unanimes, leur autorité est celle du Christ. Donc on retrouve des éléments qui vont marquer chacun des siècles qui suivront dans la vie de l'Église. Alors, il y a un épisode assez intéressant au IIIe siècle, c'est l'affaire de Paul de Samosate, évêque d'Antioche. Cet évêque est contesté par les évêques de la région, et il demande à l'empereur d'intervenir. Et l'empereur déclare que la maison de l'Église, puisque c'est ça qu'on conteste en fait, la maison de l'Église revenait à celui qui est en communion avec les évêques de la doctrine chrétienne à Rome et en Italie. Autrement dit, pour l'État romain païen, le critère de légitimité de l'Église, c'est sa communion avec celle de Rome. Le critère de légitimité d'une Église. Donc, c'est amusant de voir ça au passage. Oui ?
Les évêques, aujourd'hui, sont nommés par le pape.
Oui ? Avec vous. Alors, Vox Populi, enfin, il y a sans doute des pratiques qu'on peut étudier, mais ça ne se passe pas comme aujourd'hui, évidemment. Voilà, c'est Vox Populi. Quand on nomme saint Ambroise, il est acclamé et il n'est même pas encore baptisé. Voilà. Voilà, on va parler un peu de Saint-Martin tout à l'heure. Alors, à partir de Dioclétien, qui a régné entre 284 et 305, les persécutions vont reprendre. Dioclétien veut renforcer le pouvoir impérial donc par un système qui s'appelle la tétrarchie. On a en Occident un Auguste et un César, en Orient un Auguste et un César. Le César doit succéder à l'Auguste, donc en fait on a organisé avec quatre hommes le fonctionnement de l'Empire avec un roulement, ce qui permet un petit peu aussi de stabiliser l'espèce d'anarchie militaire à laquelle on a assisté pendant 50 ans, où les légions acclament comme empereur un de leurs chefs, et où c'est le désordre complet dans un contexte d'invasion barbare. Donc la tétrarchie, c'est une reprise en main, et cette reprise en main, elle se fait aussi au niveau religieux, puisque Dioclétien est soucieux de conserver le Mos Maiorum, hein, les cultes ancestraux. Alors il y a plusieurs incidents qui ont éclaté dans les légions, et puis dans certains actes du culte païen, et en particulier à Antioche, où des prêtres ne peuvent interpréter les entrailles d'un animal sacrifié, les dieux ne veulent point parler. Et donc, ce silence est interprété comme une marque de colère de leur part. On consulte un oracle d'Apollon qui dit qu'il faut persécuter les chrétiens, puisque c'est eux qui suscitent la colère des dieux. On peut noter au passage que c'est la première fois que le paganisme officiel se prononce contre les chrétiens. Et donc, on a l'impression que les dieux ont soif de sang, du sang des chrétiens. Et donc, sous Dioclétien, en 303 et 304, vont être édictés quatre édits qui interdisent l'exercice du culte, qui entraînent la confiscation des livres et des vases sacrés, la destruction des lieux de culte, l'arrestation du clergé. Et puis, on donne des précisions sur les conditions d'abjuration des prisonniers. En tout cas, tous les habitants de l'Empire doivent sacrifier aux dieux, sous peine de mort ou d'envoi aux mines. Alors, cette persécution fait des milliers de victimes et de nombreux apostats. Mais on peut remarquer que, contrairement à d'autres persécutions antérieures, l'opinion romaine ne bouge pas. Et c'est assez significatif quand même que les choses, en profondeur, ne sont plus tout à fait les mêmes. En fait, c'est l'appareil d'État qui persécute, mais ce n'est plus la population. Et d'ailleurs, cette persécution est un échec, d'autant plus que les tétrarques n'ont pas la même attitude. Certains sont très sévères, d'autres montrent peu d'enthousiasme à persécuter les chrétiens. Et finalement, la persécution s'arrête en Occident, et petit à petit, elle va s'arrêter partout, en particulier avec ce qu'on a appelé improprement l'édit de Milan. Hein. Et donc tout s'arrête en 312-313. Désormais donc, la liberté de culte est reconnue à tous les chrétiens, ainsi que la personnalité juridique de l'Église, qui va rentrer désormais en possession de ses biens. Les chrétiens sont par ailleurs invités à prier leur Dieu, je cite, « pour notre salut, celui de l'État et le leur, afin que l'intégrité de l'État soit rétablie partout » et qu'ils puissent vivre en sécurité dans leur foyer. Et donc, ça montre en creux que la cause de la persécution, c'était bien le salut de l'Empire, salut qui était assuré par la religion. Et donc, à partir de 313, on a une situation absolument inédite, puisqu'on a toujours une religion officielle, la religion romaine. On a une religion acceptée, tolérée, le christianisme, sans oublier l'autre religion licite, le judaïsme. Voilà, donc on a vraiment un cas particulier. En tout cas, que peut-on dire pour cette première sous-partie ? On peut dire que l'Empire romain a traversé une grande crise au IIIe siècle, que le rapport de force s'est lentement inversé entre Romains païens et chrétiens, et que les persécutions ont été l'œuvre de l'État romain bien plus que de la population. Alors, au cours de cette période, ce sera intéressant maintenant de regarder ce qui se passe dans les mentalités, parce que cette période, intellectuellement, est d'une richesse extraordinaire, aussi bien chez les chrétiens que chez les non-chrétiens dans l'Empire romain. Et on peut dire qu'au IIIe siècle, il y a deux génies qui dominent, un chrétien, qui est Origène, et un païen, qui est Plotin. Et ce qui se passe à travers l'un et à travers l'autre est assez significatif d'une espèce de révolution mentale qui s'est déroulée au IIIe siècle. Notons d'abord que les malheurs des temps que j'ai brièvement évoqués ont sans doute contribué à faire basculer les mentalités, les gens, dans une attitude religieuse de plus en plus généralisée. La croyance religieuse envahit un peu tout, bien sûr, Mais il y a une espèce de recherche de la vérité que j'avais déjà évoquée la dernière fois, qui va balayer tout ce qui pouvait exister jusque-là, l'incroyance hellénistique, vous savez, vous souvenez, cette espèce de scepticisme, les hérésies. Alors là, après le IIIe siècle, c'est plus du tout au premier plan des préoccupations. Les cultes orientaux aussi. Il y a tout cela au profit de religions universalistes, patriotiques aussi parfois. Et donc le christianisme, le manichéisme, et puis, comme on va le voir, le néopaganisme, parce que le paganisme va un peu se métamorphoser. Alors regardons d'abord ce qui se passe au niveau du christianisme dans la pensée. Il y a vraiment des géants, comme Tertullien, comme Cyprien de Carthage, Clément d'Alexandrie ou Origène. Tertullien est un personnage tout à fait étonnant. C'était le fils d'un centurion converti par le témoignage des martyrs. Donc c'est pour ça qu'il écrira que le sang des martyrs est semence de chrétiens, puisque c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'était un avocat fougueux, qui est d'ailleurs tellement fougueux qu'il a fini par sortir de l'Église, un polémiste. Et alors, l'Église a reçu de lui beaucoup de choses malgré tout. C'est le premier à avoir utilisé le terme de Trinité, défini comme trois personnes d'une seule substance. Il est le premier à traduire le terme grec mysterion par sacramentum, donc ce qui a donné notre mot sacrement, hein, qui correspond donc au serment du légionnaire à l'empereur. Voilà. Il a introduit un langage juridique dans tous les débats théologiques et il nous a laissé presque 40 ouvrages de théologie et de morale. Donc Tertullien est un incontournable. Alors Cyprien de Carthage a laissé une belle œuvre, il est mort martyr. Clément d'Alexandrie est un grec d'Égypte qui a réuni le christianisme et les grands auteurs grecs. Donc pour l'hellénisation du christianisme, il a joué un grand rôle. Mais le plus grand, c'est peut-être Origène. Je ne sais pas si vous avez des idées sur Origène, mais je vais vous en donner quelques-unes. Alors Origène, c'est l'église d'Alexandrie. Il a écrit entre 800 et 1000 ouvrages. Alors pas tout seul, puisqu'il avait sept sténographes et sept calligraphes, donc il était très organisé. Vous savez peut-être qu'il était eunuque, qu'il s'est fait eunuque. Mais voilà, bon, c'est une histoire particulière. Et il a été arrêté et torturé en 250 dans la persécution de Nice, et il est mort en 254 des suites des mauvais traitements qu'il avait subis. Alors,
On aurait quand même pu le considérer comme un martyr à ce moment-là.
ah, mais il n'est pas mort tout de suite, alors. Mais justement, alors, dans son œuvre, il y a de tout. Il est philosophe et exégète à la fois. Il s'est en particulier lancé dans une édition de la Bible à partir d'éditions et de traductions antérieures. Ce sont les fameuses Exaples, hein, avec six colonnes dans les six versions qu'il avait. Il propose aussi une technique d'explication des textes bibliques. C'est lui qui évoque les quatre sens de l'écriture, littérale, psychologique, spirituelle et analogique, donc qui sera repris par la tradition de l'Église. Il est le premier à tenter de faire une synthèse de la science théologique aussi. Il ouvre à la mystique un champ immense. Il a été le premier, par exemple, à affirmer clairement la virginité perpétuelle de Marie. Et puis, il nous a laissé un traité d'apologétique étonnant, qui est le Contre-Cels, où on a un débat exceptionnel entre un penseur chrétien et un païen qui conteste ses positions. Alors, tout n'est pas acceptable chez Origène, en particulier quand il spécule sur la préexistence des âmes ou sur l'éternité du monde. Voilà, mais il y a beaucoup à apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement l'Église est capable de faire le tri dans sa pensée. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant sur la position des chrétiens dans le monde romain qu'il faudrait évoquer. À Rome, le critère de distinction, c'est vraiment la culture intellectuelle. Si vous êtes esclave ou affranchi et que vous êtes un homme cultivé, vous pouvez avoir une influence importante auprès de l'empereur, si vous voulez, hein. Je ne suis pas sûr qu'à Athènes on trouve ce phénomène de façon aussi importante. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on va assister en fait à quelque chose d'étonnant au niveau culturel. Si pour un Romain, le personnage l'idéal, c'est d'être un homme érudit, d'être un homme cultivé, eh bien, on va assister à une rencontre par le haut avec le christianisme. Alors, je vais vous lire un petit passage d'Origène, justement, dans une lettre à Grégoire, où il évoque un peu ce sujet. Pour Origène, on va voir qu'il considère la culture profane comme une propédeutique à la science chrétienne. On va mettre la culture, donc gréco-latine, au service du christianisme. Donc on assiste à une rencontre. Donc je lis. « Voici comment je souhaite que tu utilises toute la vertu de ton heureuse disposition. Quant à la fin pour le christianisme, quant aux moyens, je voudrais que tu empruntes à la philosophie des Grecs tous les enseignements susceptibles de devenir des disciplines élémentaires ou propédeutiques pour le christianisme et que tu empruntes à la géométrie et à l'astronomie tout ce qui sera utile à une explication des Saintes Écritures. Ainsi, ce que les enfants des philosophes disent de la géométrie, de la musique, de la rhétorique et de l'astronomie, à savoir que ce sont des auxiliaires pour la philosophie, nous les dirons pour notre part de la philosophie elle-même par rapport au christianisme. » Et donc, à quoi va-t-on assister au IIIe siècle à travers certains des auteurs que j'ai cités ? Eh bien, un basculement de la culture du côté chrétien. Et c'est ça la révolution qui s'accomplit au IIIe siècle, bien plus que la déstabilisation de l'Empire par les invasions ou par l'anarchie militaire. Voilà, le christianisme se révèle comme une foi s'appuyant sur une raison. Et donc, on va assister, entre autres, à une hellénisation du christianisme. Et pourtant, ça bouillonne énormément dans cet empire, parce que si on regarde un peu plus vers l'Est, par exemple, on va voir qu'il y a un phénomène, par exemple, qui apparaît, qui est le manichéisme. Alors, le manichéisme est attaché au nom de Mani, qui est né en 216, et qui affirme avoir reçu des révélations divines à 12 ans et à 33 ans, et qui va se lancer dans une prédication parce qu'il se considère comme porteur du sceau final, clôturant la révélation après Zoroastre, Bouddha et Jésus. Alors, il sera d'abord bien accueilli, puis persécuté, et il est mort en prison en 277. Et donc, on a un fondateur d'une religion universelle, c'est d'ailleurs le seul qui est écrit. Et le manichéisme va connaître une expansion foudroyante jusqu'aux extrémités des empires universels au IIIe et IVe siècle. Succès qui est sans doute dû au fait qu'il constitue un syncrétisme des religions de l'époque. Et il repose, comme nous le savons bien, sur un dualisme radical, un esprit, la matière et l'esprit sont le fait de deux auteurs différents, et la création, c'est le fait que des parcelles spirituelles soient tombées prisonnières d'une enveloppe matérielle, et il faut s'en libérer. Et donc c'est cette nécessité d'une libération qui est défini par un mythe de salut et qui explique le sens de la vie. Donc il y a eu une il faut se dépouiller de son enveloppe charnelle pour retrouver la forme spirituelle qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et on va donc retrouver ça chez les cathares, beaucoup plus tard. Et donc, derrière cela, il y a une morale assez difficile, si difficile que d'ailleurs, il y a deux catégories de membres en fonction de la volonté d'observance de cette morale que l'on veut avoir. Donc il y a des auditeurs et il y a des parfaits déjà. Ça, c'est le manichéisme, donc une religion universelle concurrente du christianisme. Mais il y a aussi un néopaganisme, il y a un véritable renouveau. Pourquoi ? Parce que les empereurs sentent qu'il faut répondre à la soif qui se manifeste d'un nouveau salut et d'un dieu unique. On va voir ça sous Héliogabal, entre 218 et 222, qui va développer le culte du dieu soleil. Et puis, une cinquantaine d'années plus tard, sous l'empereur Aurélien, qui a décidé de créer un culte solaire impérial, qui était un culte d'État, avec là aussi une dimension syncrétique. Il pensait qu'il fallait rassembler en ce dieu soleil toutes les forces divines déjà vénérées, le Sol Invictus, et son culte était un culte à la fois militaire, civique et un culte de la victoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit dans le soleil le moteur de l'univers, le cœur animateur du monde, une divinité transcendante au cosmos, au contraire du panthéon classique, donc c'est pour ça que c'est vraiment un vrai renouveau dans le paganisme. Et il pensait, cet empereur Aurélien, pouvoir faire accepter ce culte par les chrétiens, Jésus étant vénéré comme soleil de justice, soleil levant, on retrouve ce genre de vocabulaire dans les évangiles. Et donc il y a eu un espoir de syncrétisme par le haut qui aurait pu rallier peut-être les chrétiens. Et donc on voit bien que dans l'Empire romain, les questions religieuses sont absolument essentielles. Alors, la figure la plus intéressante du paganisme au IIIe siècle est sans doute Plotin, qui est un philosophe très marqué par Platon. Donc, c'est un grec d'Égypte converti à la philosophie à 28 ans, qui s'est installé à Rome, et dont l'élève Porphyre, le roux, hein, ça veut dire, a publié le cours, les Énéades, et a rédigé sa vie. Alors, Plotin, c'est un peu particulier. C'était un ascète qui prenait un effort intérieur pour devenir meilleur. Il avait honte d'être dans son corps, dit Porphyre. Donc là, on retrouve une idée de détachement par rapport à une enveloppe matérielle. Sa pensée reposait sur le concept de l'un, avec une majuscule. Il estime qu'il y a une transcendance absolue de l'un, cause première, sans être, au-delà du connaissable. Et cet un, ontologiquement transcendant, est ressenti comme la source de toutes les valeurs. Il est désirable avec une ardeur extrême et il peut être atteint de rares occasions par l'amour humain. Donc il y a une pensée qui est quand même extrêmement élevée. Et on a une doctrine qui est donc très rationnelle et qui est aussi une doctrine religieuse. On estime que c'est en soi-même que l'on peut rejoindre l'un, la communication s'établissant par l'extase, contemplation de l'absolu. Voilà, et cette pensée, elle ira même jusqu'à influencer certains pères de l'Église. Hein ? Voilà, alors, on a, dans la suite de Plotin, Porphyre, son disciple, qui a débattu et qui a écrit un traité contre les chrétiens en 15 livres, qui est un monument de critique intelligente du christianisme qu'il estime totalement faux. Et d'ailleurs, sans s'en rendre compte, il rend hommage à ce monde chrétien qui est devenu si dangereux à ses yeux, Porphyre. Il reconnaît les dizaines de milliers de martyrs, l'influence des femmes dans la nomination des évêques. Il décrit les riches qui distribuent leurs biens aux pauvres, pour vivre ensuite d'aumône d'ailleurs. Et pour Porphyre, c'est un monde de fous. Et en même temps, on les voit tomber dans l'occultisme, la magie, enfin on ne parle plus des chrétiens, on parle des disciples de Plotin, comme si l'extrême rationalité que sa doctrine était compensé par une superstition bien naïve. Et en tout cas, il y a une rivalité mimétique et tout le monde, chrétien, manichéen, païen, juif, sont d'accord pour reconnaître l'existence d'un Dieu unique, immuable et transcendant. Mais la pierre d'achoppement, ça reste la rédemption et la résurrection de la chair et le sens de l'histoire, la théologie de l'histoire. Et donc, ce IIIe siècle est une époque capitale, au cours de laquelle s'est opérée une révolution mentale qui a atteint aussi bien les chrétiens que les païens. La pensée chrétienne a adopté la culture gréco-romaine, on a assisté à une hellénisation du christianisme, dont le témoignage le plus spectaculaire, c'est les pères de l'Église, en fait. Et on a vu apparaître un christianisme savant qui est devenu majoritaire. Origène a doté l'Église d'une base intellectuelle et mystique. Il a recherché à annexer la philosophie païenne à la révélation, pour mieux l'exprimer. Et donc le chrétien doit être un vrai philosophe. Et donc les interrogations religieuses sont capitales au IIIe siècle. Il y a toutes sortes de réponses, celles de Manie, celles du culte unificateur politico-religieux au Dieu Soleil, mais elles sont insatisfaisantes. Et la poussée du phénomène religieux finit même par changer le contenu du paganisme. Et avec Plotin, la philosophie s'est transformée en une religion mystique, mais qui a horreur du corps et de la matière. Voilà, donc ce néoplatonisme, hein, Plotin c'est du néoplatonisme, c'est une autre forme de la révolution mentale du IIIe siècle. Voilà, et donc les chrétiens vont-ils savoir en tirer parti au milieu de toutes ces aspirations communes ? Et donc, je vais commencer ma deuxième partie, le passage de l'Église tolérée en 313, donc à l'Église d'État en 392, et on va même aller un petit peu plus loin au 5e siècle. Alors, à partir de 313, une nouvelle phase de l'Église s'est ouverte avec la tolérance dont le christianisme est désormais l'objet, et même sur son lit de mort avec le baptême de l'empereur Constantin. Donc on a déjà dit l'ampleur du phénomène religieux, j'y reviens pas. Donc tout le monde est d'accord pour que l'État ait une religion maintenant, mais laquelle ? Alors au IVe siècle, il va y avoir plusieurs phases. Il y a eu une phase arienne, où l'Empire a été arien quelques années, entre 337 et 361, sous Constance II. Il y a eu une phase de néopaganisme, avec Julien l'Apostat, entre 361 et 363, mais il est mort très vite. Et puis une phase où c'est le christianisme qui est devenu religion d'État sous Théodose, qui a régné de 379 à 395. C'est sur la fin de son règne, en 392, que le christianisme est devenu religion d'État. Et donc on va passer d'une église qui était tolérée à une église dans laquelle l'État va intervenir, parfois brutalement. Et puis, ça va aboutir à la fin du siècle à l'élimination du paganisme et à la proclamation du christianisme comme religion officielle. Alors, on va essayer de comprendre comment ça a pu se passer. D'autant plus que dans le christianisme a eu lieu une grande bataille, surtout dans l'Orient chrétien, à propos de l'hérésie du prêtre Arius. Et ça va être très important pour la définition de l'orthodoxie. Voilà. Alors parlons d'abord de Constantin, bien sûr, puisque tout bascule avec lui. Constantin a donc remporté une victoire décisive sur son rival Maxence, au pont Milvius, au nord de Rome, le 28 octobre 312. Cette victoire a été interprétée comme causée par une intervention surnaturelle, puisqu'il nous est dit qu'il a vu une croix lumineuse avec l'inscription « Inox igno vinces », « Tu vaincras par ce signe », le signe de la croix. Et sa politique est devenue de plus en plus favorable aux chrétiens. Il a été baptisé sur son lit de mort par un évêque arien, mais bon. Et à travers ses lois, il a favorisé l'Église. Le clergé a été exempté de toute charge et fonction publique. Il a accordé la personnalité juridique à l'Église avec la faculté de recevoir des legs. Et donc, à partir de là, les biens de l'Église vont croître et se développer. Et d'autres lois ont permis une christianisation en profondeur. Par exemple, le jour du soleil est devenu le jour du repos dominical, le dimanche, le dies domini, le jour du Seigneur désormais. Et ça va permettre un accès facile à la liturgie et à la catéchèse. Il octroie même aux évêques la direction d'un tribunal. Et ça aura beaucoup de succès. La justice est bien rendue par les évêques. Et puis il va fonder Constantinople, nouvelle capitale et symbole du nouveau monde qu'il est en train de créer. Il va d'ailleurs doter Rome de trois grandes églises, Saint-Jean, le Latran, Saint-Pierre, du Vatican, Saint-Paul, hors les murs. Il s'entoure d'évêques qui le conseillent. Il convoque les conciles comme celui d'Arles en 314 ou de Nicée en 325. Et on lui a donné un titre un peu particulier, l'évêque de l'homme extérieur. Il prend en charge le temporel, la recherche de la paix entre ses sujets. Il ne veut point régenter l'Église, mais créer les conditions permettant une meilleure christianisation. Et à cet égard, il a dévolu un rôle à sa mère, qui a été de surveiller la construction d'une grande basilique à Jérusalem, sur l'emplacement du tombeau du Christ. On a aussi bâti une basilique à Bethléem, l'Eléona sur le mont des Oliviers. Elle joue vraiment un rôle de mère réparatrice, sainte Hélène. Mais à cette époque, les débats théologiques vont connaître une intensité nouvelle en raison des positions d'un prêtre égyptien qui s'appelait Arius. Alors il reprend une hérésie un peu plus ancienne qu'on appelle le sabellianisme ou le monarchianisme, qui insiste sur la transcendance du Dieu unique, mais qui insiste tant qu'il dévalorise Jésus, le Logos, et donc il fait de Jésus une créature exceptionnelle, certes, mais une créature, et donc il le définit comme inférieur au Père. C'est ça l'arianisme, c'est de dire que le Fils est inférieur au Père, d'accord ? Pour le dire très simplement, parce qu'après on peut tout à fait se compliquer la vie pour parler de cette question. Et alors, ça va provoquer évidemment beaucoup d'agitation, mais Arius refuse de se soumettre, il constitue un parti, et Constantin va convoquer un concile à Nicée pour régler le problème. Il n'y a quasiment pas d'occidentaux à Nicée, il n'y a pas l'évêque de Rome, et une très forte majorité va condamner les idées d'Arius. Et le concile va proclamer une profession de foi dans laquelle le Fils, c'est-à-dire Jésus, est vrai Dieu, issu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Donc, ce que nous disons dans le credo court, c'est exactement la formule de Nicée pour répondre à Arius. Et le mot-clé, c'est consubstantiel, homo ousios. Alors cette définition dogmatique, c'est la première du genre dans l'histoire du christianisme. Bien sûr, il y a un exposé de la foi chrétienne antérieurement, hein, dans les évangiles, dans les actes, dans Saint-Irénée, dans plein de traités des pères apostoliques ou des premiers pères de l'Église. Mais là, on a une profession de foi qui est d'une densité très forte. Et alors, le terme « homo ousios », consubstantiel, a été lancé par Tertullien, mais ce terme, il va choquer en Orient parce qu'il est jugé trop matérialiste. On parle quand même de substance, donc on se dit qu'il faudrait trouver un mot un peu moins matériel pour dire l'égalité du Père et du Fils. Et donc, même si le Concile ne s'est prononcé que sur l'égalité du Père et du Fils, ce que le terme homo ousios dit, le terme, par ailleurs, ne satisfait pas tout le monde. Et alors, une coalition contre le terme jugé ambigu se constitue autour d'évêques de cour comme Eusèbe de Nicomédie. Constantin intervient et les évêques nicéens qui tiennent à la formule que je viens de citer, dont Athanase d'Alexandrie, sont déposés. Il va exiler les rebelles, accorde l'amnistie à Arius. Sans doute que Constantin, vous voyez, n'y comprend pas grand-chose. Mais l'enjeu derrière, c'est aussi la définition trinitaire. Hein, la consubstantialité du Verbe éternel avec le Père n'est pour lui, je cite, qu'un jeu pour enfants insensés. Hein, Constantin, il n'y comprend pas grand-chose. Il parle de niaiseries à propos desquelles chacun peut penser ce qu'il veut. Pour lui, seul compte un Dieu unique et suprême dont le culte fortifie l'Empire. Et donc, on va entrer dans une phase, ce qui n'est pas... on ne le sait pas beaucoup, mais où en fait, c'est l'arianisme qui va triompher au début. Alors, Constantin a divisé l'Empire entre ses fils, et Constance II l'a réunifié entre 352 et 361, et Constance II a été toujours plus favorable aux Ariens, et en 360, l'Empire est même devenu officiellement arien. Et alors c'est malheureux parce que c'est juste le moment où des peuples barbares comme les Gaules, les Burgondes, les Vandales ou les Lombards ont demandé qu'on envoie des missionnaires pour devenir chrétiens. Ben, on leur a envoyé des missionnaires ariens, donc ils sont restés ariens, et parfois jusqu'au 7e siècle. Mais Constance II est mort et lui a succédé Julien l'Apostat, qui lui est un néo-païen, qui est convaincu d'ailleurs d'avoir été favorisé de vision du soleil roi, qui renvoie dos à dos tous les protagonistes de la crise arienne parce qu'il veut simplement entreprendre une restauration païenne avec une loi qui interdit aux chrétiens d'enseigner dans les écoles. Puisqu'ils ne croient pas aux récits mythologiques qu'ils expliquent par ailleurs, et ils disent aussi qu'ils aillent enseigner Marc et Matthieu dans les églises des Galiléens. Pour lui, le christianisme, c'est bien une religion d'un culte subversif. Voilà, donc il va essayer un petit peu de lutter contre l'hellénisation du christianisme, sauf qu'elle est déjà faite en réalité, comme on l'a dit. Voilà, alors c'est assez intéressant parce que il va essayer de réorganiser les sacerdoces païens, mais il va les hiérarchiser à la manière du clergé chrétien. Et sans s'en rendre compte, il pratiquera une imitation des institutions et des pratiques religieuses chrétiennes. Et donc il rend en quelque sorte un hommage négatif au christianisme, y compris dans le développement d'institutions caritatives dans les temples. Il y a un réflexe mimétique qui est un aveu d'impuissance et une confirmation en creux du succès du christianisme. Et il allait se lancer dans une persécution générale quand il est mort des suites de ses blessures dans la guerre face aux Perses. Alors le temps lui a manqué, et le soutien de l'opinion aussi. Alors la crise arienne court toujours, et les Nicéens essaient de réunifier l'unité des chrétiens, et le personnage clé c'est Athanase d'Alexandrie, puis Basile de Césarée. Le contexte politique est plus favorable avec des empereurs comme Gratien et Théodose. Et alors, les pères cappadociens, comme on les appelle, donc Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, hein, vont proposer une formule nicéenne prudente et les efforts vont toucher à leur but. On va enfin trouver une formule plus satisfaisante. Enfin, mais les problèmes se déplacent. On n'a pas encore fini de résoudre le problème, mais bon, on voit le bout du tunnel. À peine on s'est mis d'accord sur l'expression de l'égalité du Père et du Fils, que la place de l'Esprit-Saint se pose. Alors certains Ariens, encore eux, refusent qu'il soit Dieu. On leur a donné un joli nom, ce sont les pneumatomaques. Donc on voit bien que c'est la définition trinitaire, encore une fois, qui est en jeu, hein, puisqu'on refuse la divinité à l'Esprit-Saint. D'autres, en insistant sur le fait que Jésus, dans sa vie, a montré son infériorité en obéissant au Père, son infériorité selon eux, font surgir la question des deux natures du Christ, sa nature humaine et sa nature divine. Donc ça va être les problèmes à régler au 5e siècle. Voilà, en tout cas, en 381 a lieu le deuxième concile œcuménique à Constantinople. Il y a 150 évêques orientaux. Et entre autres choses, on va apporter des précisions nouvelles à la définition par le concile de Nicée du Christ consubstantiel au Père, puisqu'on va dire que le règne du Christ n'aura pas de fin, que l'Esprit-Saint est Dieu. Et donc, on définit le dogme de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Et puis, on règle des problèmes disciplinaires sur l'élection des évêques, et on accorde à l'Église de Constantinople la primauté d'honneur après l'évêque de Rome, car elle est la nouvelle Rome. Bon, un sujet de bagarre. Voilà, et ces canons seront approuvés par Rome et par l'Église d'Occident l'année suivante, par le pape Damase, qui en profite pour affirmer la primauté spirituelle et non politique de son Église. Et donc, triomphe à Constantinople, un nicéisme amélioré après 70 ans de crise. L'arianisme est progressivement éliminé. Alors en Occident, il y a de grandes figures dans cette histoire comme saint Ambroise, mais les Germains orientaux sont ariens, donc tout reste à faire. Et en 382, l'empereur Gratien, pour montrer que vraiment ça bascule complètement le paganisme et ça s'effondre, Gratien fait enlever la statue de la victoire du couloir du Sénat à Rome. Il supprime les subventions aux cérémonies païennes. Il refuse de revêtir le vêtement et les insignes du Pontifex Maximus. Donc il y a une espèce de rejet du paganisme impérial par l'empereur lui-même. Alors la statue revient en 384, mais Théodose est décidé à instaurer l'interdiction totale du paganisme. Et donc, en 392, le christianisme devient religion d'État. Théodose publie une série d'édits ramassés dans la loi du 8 novembre 392, dont je vous lis un extrait. « Que nul, sans exception, ne sacrifie de victimes innocentes à des idoles dépourvues de sens en absolument aucun lieu ni aucune ville. » Donc c'est terminé. Et donc, les biens des temples sont affectés au fisc impérial, les monuments sont détruits, on éteint le feu sacré des mystères d'Éleusis et on ferme tous les autres sanctuaires de type oraculaire. Alors, certes, il y a des formes de résistance, mais désormais, l'État romain est chrétien. Donc, tout s'est complètement inversé. Ça, c'est une vraie révolution. Alors, se pose alors une nouvelle question. Quelle est la place de l'empereur dans l'État chrétien? Et on va voir qu'en Occident et en Orient, il ne se passe pas la même chose dans les premières années. Alors, je veux d'abord évoquer la pénitence de l'empereur Théodose. En 390, Ambroise proteste contre le massacre de 7000 personnes dans le cirque de Thessalonique, sur ordre de l'empereur, quand même. Alors, l'empereur est excommunié, il fait une pénitence de 8 mois, puis il est réintégré dans l'église après avoir quitté ses insignes impériaux et reconnu son péché. L'empereur est dans l'église et non au-dessus d'elle. Vous voyez ? Donc il y a un rapport entre le temporel et le spirituel qui est assez clair. Mais en Orient, la tendance est plutôt inverse. Et on le voit avec ce qui arrive à Saint Jean Chrysostome. Pour Saint Jean Chrysostome, le pouvoir impérial est légitime, mais il ne peut empiéter sur le spirituel ni généraliser l'injustice. Donc il dit autrement la même chose que Saint Ambroise. Alors il est patriarche de Constantinople en 398, mais il se heurte au pouvoir impérial à Constantinople. Il est déposé, exilé, et il est mort en Arménie, qui a provoqué d'ailleurs une rupture de communion entre Rome et Constantinople. Alors, vous voyez qu'on sent des choses qui éclateront bien plus tard, en fait, dans le rapport temporel-spirituel chez les Latins d'un côté, chez les Grecs de l'autre. Alors, en Occident, on est très majoritairement nicéens. Alors, il y a des schismes comme le donatisme qui touchent la question des lapsies. Hein. Il y a d'autres courants religieux, le priscillianisme. Mais je voudrais surtout parler du pélagianisme, puisque ça va aussi beaucoup marquer l'histoire de l'Église, notamment au XVIIe siècle. Pélage est un moine de l'île de Bretagne, de Grande-Bretagne. Pélage, c'est le pêcheur, hein, c'est un nom qui est attaché à la mer, en fait. Pour Pélage, donc, pour ce moine, l'homme peut être sans péché et observer facilement les commandements de Dieu s'il le veut. Pour lui, le péché d'origine d'Adam n'est pas héréditaire. Et grâce au baptême, l'homme est doté du libre arbitre, il peut choisir volontairement le bien et le mal. Il peut même atteindre un état d'absence de péché. On a donc un volontarisme intellectuel qui suppose une morale stricte. Se dépouiller de tous ses biens, s'abstenir du mariage, méditer la parole de Dieu. Alors Pélage, qui raconte ça à Rome, en est chassé par le pillage de la ville par Visigoth. Il va se réfugier en Orient, où ses idées connaissent un certain succès. Et saint Augustin, à Hippone, hein, en Afrique du Nord, s'aperçoit du danger. Parce que si l'homme peut se sauver lui-même, à quoi bon la rédemption par la mort du Christ en croix ? Pélage va être aussi attaqué par saint Jérôme, condamné par le pape, réhabilité, excommunié, il y a toutes sortes de rebondissements. Et un concile va être réuni à Carthage pour étudier ses positions sur le péché intransmissible, sur l'innocence des enfants baptisés, sur le libre arbitre absolu, sur l'impeccabilité possible. Et donc, on voit bien qu'il y a toute une... un débat incroyable sur la question de la grâce, en fait, qu'on retrouve dans toute une partie de l'œuvre de saint Augustin. Donc, on va retrouver au moment de la réforme protestante, au moment du jansénisme, etc. Voilà. Alors, le pélagianisme survit quelque temps, notamment en Angleterre, où Germain d'Auxerre est envoyé pour le combattre en 429. Et donc, le IVe siècle est pour l'Église un siècle étonnant, puisque de persécutée, elle devient libre. Alors, il y a des hérésies, bien sûr, notamment l'arianisme, mais les hérésies, on peut les voir positivement comme les scories de la recherche de la vérité, comme des crises de croissance. Et elles appellent à un nouvel élan de l'Église, écartelé entre la paix victorieuse, finalement, et le désir de renouveau. Et c'est dans ce contexte qu'on va voir apparaître un phénomène nouveau qui est le monachisme. À partir du moment où on ne peut plus être un martyr rouge, un martyr de sang, quelle est la vie parfaite ? Et ça va être le monachisme. Alors, pour étudier le monachisme, il faut aussi bien se rendre compte qu'on est donc dans ce contexte de la querelle sur le rapport entre la nature humaine et la nature divine dans le Christ. D'accord ? Alors, il se passe quelque chose d'étonnant à partir de 392, c'est qu'on passe... il n'y a plus de risque à être chrétien, la foi devient à la limite un conformisme. Où va être la sincérité de la conversion ? Où va être le feu de la foi ? On passe d'une église d'élite à une église de masse. Il n'y a plus aucun danger à être chrétien et la foi risque de s'attiédir. Et il y a comme une nostalgie de la communauté primitive qu'on va essayer de retrouver à travers le monachisme. La recherche de la vie chrétienne parfaite par des pratiques ascétiques. Et on va voir apparaître une population de laïcs spécialistes de la prière qui interviennent de plus en plus dans la vie de l'Église. Et donc, les moines vont se passionner pour les problèmes théologiques concernant la personne du Christ, hein, dont j'ai parlé. Donc, les querelles christologiques vont provoquer de nouveaux conciles œcuméniques, celui d'Éphèse et celui de Chalcédoine. Alors, je voudrais vraiment vous dire d'abord comment est né le monachisme. Je crois que c'est important. Ça vient de l'anachorèse. L'anachorèsis, c'est la montée vers le bled, si vous voulez, l'anachora. Vers le désert, en fait, puisque ça naît en Égypte, hein, pour y combattre avec le Christ les démons. Hein. « Retire-toi de notre domaine, disent-ils à saint Antoine, ces démons, que fais-tu dans ce désert ?» Et on voit ça dans toute l'iconographie chrétienne sur les tentations de saint Antoine. Hein. Alors, l'Égypte, c'est le pays idéal pour la naissance de ce phénomène. Le premier moine connu est Antoine, il y en a un autre qui était Paul aussi, mais bon, qui est né en 250 et qui est mort en 356, comme quoi la 16, ça conserve. Alors on le connaît très bien par la vie qu'a rédigée son évêque, saint Athanase, vie qui s'est répandue en Occident, parce que c'est par là-bas qu'Athanase a été exilé, donc Ça fait connaître le monachisme en Occident, l'exil d'Athanase, c'est quand même amusant. Et donc, ils ont repris, il a repris l'histoire du jeune homme riche, puisque lui-même était un paysan riche égyptien, si tu veux être parfait, etc. Et donc, il s'est retiré à une certaine distance de son village, puis dans un fortin romain abandonné, puis dans la montagne proche de la mer Rouge de 316 à sa mort. Alors, que fait saint Antoine? De l'ascèse corporelle, des jeûnes, il mange peu, il n'a pas de confort, il a peu de sommeil. Il veut dominer les passions et le monde de l'imaginaire afin de découvrir la vie mystique et la relation avec Dieu. Et ça, c'est bien rendu par l'iconographie ultérieure, là. Les tentations, elles sont aussi dans le domaine de l'imagination. Il s'adonne au travail manuel et à la prière. Il apprend les psaumes, il les récite par cœur. Et il parvient à un tel stade de sagesse et de charisme prophétique ou visionnaire qu'il va voir rapidement accourir auprès de lui des hommes et des femmes qui lui demandent conseil pour leur vie personnelle. Il est le monachos par excellence, c'est-à-dire celui qui fait l'unité de lui-même. Il va donc avoir des disciples et le mépris du monde qu'il avait inspiré va se transformer en construction du monde, puisque le désert va se peupler. Et même l'anachorète va parfois être renvoyé vers le monde. Et deux fois, Athanase a fait sortir Antoine de son désert pour soutenir les chrétiens contre la persécution de Dioclétien, puis contre les Ariens. Et donc, ça va se répandre. La vie de saint Antoine a joué un rôle important. Et on va avoir des groupes d'ermites, hein, Eremos, le désert, les ermites, donc, qui vivent dans le désert, chacun dans sa cellule, en Moyenne-Égypte, dans le sud, en Thébaïde, dans le Delta. Hein. En Nitrie, il y a 300 000 ascètes en 370. 5 000 en 390, donc à la fin du 4e siècle, c'est le boom. Il y a aussi des moines en Syrie. Alors d'Antoine, on a gardé des lettres, 7 lettres, et 38 apophthegmes, donc des paroles, des récits édifiants. Et les groupes vont se multiplier dans le Sinaï, en Palestine, dans le désert de Juda, en Syrie, avec des pratiques ascétiques d'une rigueur extrême, des jeûnes, des veilles, le port de chaînes, la vie dans des arbres. Il y a des moines qui ne se nourrissent que d'herbes. Et d'autres, comme les stylites, qui vivent en haut d'une colonne. Hein. C'est Siméon, l'ancien et le jeune, lequel envoie ses voeux à Geneviève, diaconesse à Paris, ce qui montre que si, au niveau religieux, elle-même, elle a une vie consacrée très particulière, Sainte Geneviève, il y a des liens, c'est ça qui est étonnant. Certains vivent enfermés dans des cellules, ce sont les reclus ou les recluses, ou vivent dans une grotte, une vie de solitude. Il y a aussi des moines gyrovagues qui circulent, par deux, en mendiant et en jeûnant. Donc il est temps d'ailleurs d'essayer d'institutionnaliser ce tumultueux mouvement monastique. Et c'est ça qui va donner naissance au cénobitisme, c'est-à-dire à la koinos bios, à la vie en commun, donc au monastère. Donc là, on doit ça à saint Pacôme, qui est né vers 292. C'est un ancien centurion converti, qui a fait de la vie solitaire, puis qui a fondé en 322 un monastère digne de ce nom, en Thébaïde, en Égypte. Le but, c'est de faire l'apprentissage de la relation avec Dieu en commun, sous la direction d'un ancien, le père spirituel, l'abba, hein, avec l'aide d'une règle écrite. Donc cette vie commune implique une stricte discipline, pauvreté, chasteté, travail manuel, prière en commun, et puis tous les services, boulangerie, cuisine, infirmerie, accueil des pauvres. Et donc le monastère devient un centre habité, avec son mur, son église, son dortoir, ses ateliers, ses greniers. On y vit le partage des biens, donc là voilà la vie évangélique. Hein. Et Pacôme va ainsi fonder 9 monastères d'hommes et 2 de femmes. Voilà, donc les fondations vont se multiplier dans la vallée du Nil. Pendant les moissons, les moines fournissent aux paysans une main-d'œuvre d'appoint très appréciée. Et puis ça va se répandre en Palestine, Chypre, Afrique du Nord, Syrie. On peut citer le monachisme basilien, donc Saint Basile, Césarée, qui a été évêque, et qui va constituer une communauté autour de lui avec une vie communautaire au service de l'évêque et une grande vie caritative. On peut aussi noter dans ce mouvement la place des femmes. Elle est essentielle. Beaucoup de femmes sont attirées par l'ascétisme. Certaines font vœu de vivre chez elles en pratiquant la pauvreté et la chasteté, comme Geneviève, ou bien en famille. On trouve des femmes qui vivent en mariage spirituel avec un autre ascète. On trouve des communautés féminines, pas comme mienne. Et puis on trouve des femmes riches, issues de l'aristocratie sénatoriale, qui fondent matériellement par leurs dons de grands monastères. Ainsi, Mélanie l'Ancienne crée-t-elle sur le mont des Oliviers un monastère de 50 vierges. à Bethléem et sa fille, à Bethléem, Paola et sa fille Eustochium, en crée un autre auprès duquel se réfugie saint Jérôme. À Constantinople, c'est Olympias, diaconesse d'origine aristocratique, amie de saint Jean Chrysostome, qui va installer près de Sainte Sophie un monastère avec un hospice. Et donc l'élément féminin occupe une place très importante dans tout ce mouvement monastique. Et puis ce mouvement va passer en Occident. À Rome, il y a aussi de nombreuses femmes qui vivent dans le célibat en jeûnant, priant, travaillant. Et puis à Versailles, avec Eusèbe de Versailles, à Ligugé avec saint Martin, disciple d'Hilaire de Poitiers, devenu évêque de Tours en 371, et qui va fonder un ermitage à Marmoutier. C'est un ensemble de huttes et de grottes, une espèce de groupement semi-anachorétique sans règles. Et cette communauté ne survivra pas à la mort de saint Martin en 397. Voilà. Il y a des monastères épiscopaux, il y a beaucoup de choses, hein, saint Honorat, Jean Cassien à Marseille. Et ce monachisme a un rayonnement extraordinaire. Alors, les moines, ils contestent le mode de vie romain raffiné. Leur attitude envers la culture, d'ailleurs, pose question parce qu'ils sont souvent fiers de leur inculture. Ils ont une culture biblique, orale, et voilà. Et à travers eux, il y a aussi une nouvelle révolution mentale, c'est la prise en compte de la noblesse du travail manuel. Hein. Ça, c'est vraiment, ça vient vraiment des moines. Alors, il y a toute une hostilité anti-monastique aussi, hein. On les considère comme un culte sale et asociaux. Bon, mais n'empêche qu'il y a des moines qui sont aussi de grands théologiens et qui vont agir au premier plan dans les querelles théologiques à venir. Voilà, ils se sont tous frottés à la vie monastique. Ambroise, Jérôme, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze, Basile, Grégoire de Nice, voilà, ou Eutyches, puisque, et Nestorius. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parlons du nestorianisme. Quel est le mode d'union des deux natures du Christ, nature humaine et nature divine ? Nestorius, patriarche de Constantinople, insiste sur le fait que Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Et donc, à trop vouloir distinguer, il sépare la nature humaine de la nature divine. Donc le nestorianisme, c'est trop séparer les deux natures. Alors, il y a un concile qui réunit à Éphèse en 431. Nestorius refuse de comparaître. Ça va mal se terminer, mais on va conserver une résolution de ce concile. C'est celle qui proclame Marie mère de Dieu, justement, Théotokos. Et c'est donc la première fois qu'une définition dogmatique... on a une façon déjà de dire à travers Marie le rapport entre la nature humaine et la nature divine du Christ. Elle est mère de Dieu et pas seulement mère de Jésus. Et puis, dans un autre sens, il y a une autre tendance qu'on appelle le monophysisme, qui est portée par un vieux moine qui s'appelle Eutyches, qui lui, à force d'insister sur la nature divine, en vient à dire qu'il y a deux natures avant l'union dans le corps du Christ et une seule, la divine, après l'union qui absorbe l'humanité, donc après l'incarnation. Donc, pour lui, l'humanité est transformée en divinité, et à la limite, il n'y a quasiment plus qu'une nature en Jésus-Christ, la nature divine, parce que la nature humaine a été absorbée par la nature divine comme une goutte d'eau l'est par la mer. Donc, vous voyez, le nestorianisme, c'est trop séparer les deux natures, et le monophysisme, c'est la nature divine qui absorbe la nature humaine comme une goutte d'eau est absorbée par la mer. Donc on a deux formulations qui ne sont pas satisfaisantes du rapport entre les deux natures. Alors, on va essayer de résoudre le problème. Alors le problème, la solution va être apportée par le pape, Léon le Grand, qui considère qu'il y a deux natures unies, mais sans confusion. Alors, on va convoquer un premier concile à Éphèse en 449, mais ça va très mal se passer. On parlera de brigandage d'Éphèse, je ne vous le raconte pas, vous le lirez. Et on va réunir un nouveau concile à Chalcédoine en 451. Un concile où il y aura jusqu'à 600 évêques, 5 légats romains. Et le débat est essentiellement oriental. Et en tout cas, on va trouver une formule qui va rejeter dos à dos Nestorius qui divise le Christ, Eutyches qui confond les natures, et on va dire que l'unique Christ est en même temps vrai Dieu et vrai homme, je cite, « une seule personne en deux natures, consubstantielle au Père selon la divinité et consubstantielle à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché. Et donc, celui qui a apporté la formule décisive, c'est Léon le Grand. Hein ? Comme on le dit à l'époque, Pierre a parlé par Léon. Voilà. Alors, il va rester des églises monophysites et des églises nestoriennes qui subsistent toujours, hein, des églises, on dit, pré-calcédoniennes. Voilà, et sachant que dans ces histoires, la question linguistique a été source d'incompréhension, par ailleurs. Alors, voilà où on en est au 3e, 4e et 5e siècle. On a donc un empire qui est devenu chrétien. Et vous voyez, on s'interroge chez les historiens sur la nature et la forme de cette conversion de l'empire, mais elle n'a pas été tant imposée par le haut qu'elle est le phénomène d'un basculement de la société et de la population elle-même dans le christianisme par un mécanisme culturel, un mécanisme spirituel, et par le haut, en tout cas, comme en témoignent tous les débats théologiques qui ont eu lieu au même moment. Alors, est-ce qu'on assiste à la naissance d'une chrétienté ? Le mot apparaît en 409 dans le Code théodosien. C'est vrai que le christianisme continue à s'étendre. C'est vrai que la cité chrétienne commence à apparaître, par exemple, autour de... Parce que maintenant, on peut construire des églises. Hein. On voit les évêques jouer le rôle de protecteurs face aux barbares, construire des bâtiments caritatifs... Il y a quelque chose de nouveau, une fièvre de construction chrétienne. Mais en même temps, toute une partie du paganisme subsiste. Le droit romain est en place, la torture, le divorce est maintenu. Il y a donc des changements réels, mais seul le cadre d'une chrétienté a été posé. Et il faudra encore beaucoup de temps pour que la chrétienté soit vraiment... un terme qui puisse définir une société dont le mode de fonctionnement théorique et pratique soit bien inspiré par le christianisme. En tout cas, on a assisté à des éléments absolument décisifs au 3e, 4e et 5e siècle, mais c'est justement à ce moment-là que l'Empire romain va s'effondrer. Et finalement, cet effondrement va être la preuve de l'authenticité et de la vitalité du christianisme, puisque comme je le dirai très rapidement au début de la prochaine fois, ce christianisme est tellement vivant que si l'Empire s'effondre, eh bien le christianisme va quand même passer aux barbares.